de la réserve, à quelques centaines de mètres, figé comme lui dans le brouillard aveuglant de l'aube. Un frisson coula alors le long de son échine, presque surréel. Le danger était là, tout près. Et lui ne voyait rien d'autre que cette tour sombre dressée dans le tourbillon de poussière. Il songea aux hommes lions, aux métamorphoses fabuleuses, et ses poils se hérissèrent. Les esprits lui jouaient des tours, le punissaient pour une faute qu'il n'avait pas commise ou le mettaient en alerte. Le jeune pisteur tenta de se rassurer, de se dire que les Ovambos étaient des gens bons, que personne n'avait de raison de lui en vouloir, mais tout lui criait de prendre ses jambes à son cou, car un souffle mortel fondait sur lui. Isra hurla de terreur. Trop tard. Chapitre 1. Les chasses aveugles du XIXe siècle avaient lancé la ruée vers l'Afrique et les premières tueries de masse. 12 000 éléphants massacrés pour la seule année 1887. Maharaja, émir, roi et prince fortuné, industriel en manque de sensations fortes, chasseur de trophées ou d'ivoire, les caravanes partaient dans la brousse et les forêts africaines pour des semaines de traque, des centaines de porteurs et serviteurs embarquant argenterie, vaisselle, toilettes, lits à baldaquins et mobilier divers. Les cours des rois et les premières agences de tourisme se succédaient à la suite de ces gens bien nés qui trouvaient exotique la mise à mort d'animaux alors à peine craintifs. Puis, l'hécatombe se démocratisa. Récits de peur bleue face à la charge d'un lion, de maladies attrapées là-bas, de nègres qui parfois se rebellaient et créaient des sociétés secrètes, comme ces aimables Mao-Mao, devenus la nuit coupeurs de têtes et attaquant les fermes des Blancs à la machette. L'Afrique était le terrain de chasse de l'Europe et de l'Amérique. Enfin, le gibier devenu rare et fuyant à force de massacres, on avait décidé au milieu du XXe siècle de parquer la faune rescapée, créant ainsi les premières réserves animalières. De l'or à sang chaud pour les mafias du braconnage, qui aujourd'hui en avaient fait le quatrième commerce illégal au monde. L'Afrique australe n'était pas épargnée par le trafic. Sentant le vent de l'apartheid tourner en leur défaveur, des officiers de l'armée sud-africaine avaient monté des sociétés privées de sécurité, en fait des compagnies de mercenaires répondant à la demande. On échangeait les animaux ou leur ivoire contre du pétrole et des diamants, alimentant les guerres jusqu'en Sierra Leone. Enfin, les paix relatives avaient fini par contraindre les belligérants et ceux qui tiraient les ficelles à changer leurs fusils d'épaule. Ancien gradé de l'armée sud-africaine, expert de la guerre en brousse, Rainer Du Plessis avait vite compris que les animaux sauvages de plus en plus rares devenaient encore plus précieux. Le bouillon au dé de peau d'éléphant commençant à concurrencer la soupe d'aileron de requin, la chasse au pachyderme avait repris de plus belle. Du Plessis et ses hommes utilisaient surtout le cyanure, qui tuait plus facilement que les balles. Les exploitants des mines d'or disposaient de stocks à usage local, on pouvait s'arranger avec eux comme avec les villageois qui connaissaient le parcours des éléphants. L'ivoire était exfiltré brut ou transformé sur place, Kenya, Ouganda, Burundi, Zambie, Zimbabwe. Les longues défenses étaient coupées en tronçons, celles des juvéniles ou des petits transformées en bijoux et en babioles par les artisans locaux. Le nombre d'éléphants d'Afrique diminuant au fil du temps, les 400 000 survivants risquaient d'autant plus la mort que leur prix augmentait du fait de leur rareté. Mais le must restait le rhinocéros. Rainer Du Plessis avait réalisé son plus gros coup en 2013, au Mozambique, quand l'intégralité des 300 rhinos recensés dans le parc du Limpopo avait été exterminée par ses soins. L'Afrikaner avait frappé vite et fort, gagnant le surnom de « Scorpion ». L'ancien officier avait embauché ses meilleurs hommes, resserré les liens de ses filières avec les agents corruptibles des pays concernés par la sauvegarde des espèces, où son pragmatisme décomplexé finissait de convaincre les réticents. Si tu ne prends pas cet argent, un autre le prendra. Le scorpion possédait plusieurs passeports, prenait parfois le soin de se grimer ou de teindre ses cheveux poivre et sel, selon l'identité qu'il choisissait, de faux profils qu'on retrouvait sur Internet et autant d'activités dans le commerce et l'import-export qui lui servaient de vitrine légale. Une armada de camions sillonnait l'Afrique subsaharienne, ses bateaux mouillaient